L'actualité en profondeur sur Radio Caprice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Encore une fois, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de la déperdition scolaire. Comment lutter contre ce phénomène? En RTC, le taux de fréquentation des écoles baisse au fur et à mesure au cours de l'année, généralement à cause du manque des moyens financiers des parents qui ne savent plus payer la motivation, les frais de motivation des enseignants. Au Kassai, on signale que les écoles enregistrent déjà presque 92% des désertions scolaires selon l'UNICEF. Et pourtant, un bon nombre d'enfants interrogés soutiennent qu'il est important. Ils veulent bien aller à l'école, mais les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école, ce qui fait que beaucoup d'enfants ont commencé l'année, mais au fur et à mesure, ils ne partent plus à l'école. Comment lutter contre la déperdition scolaire? On en parle aujourd'hui. Serge Bondedi, encore une fois, bonjour.
Bonjour, jeudi.
Alors, vous êtes secrétaire général de Young Men Association for Education. C'est IMAE, je crois.
Oui, mais c'est IMAE.
IMAE est coordonnateur de la campagne École les âmes ont bon côté. Oui. D'après vous, quelles sont les autres raisons qui font que les enfants commencent bien l'année, mais à un certain moment, on constate qu'il y a des perditions scolaires?
Effectivement, déjà, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le document de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation Horizon 2016-2025 reconnaît que la plus grande cause des abandons, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit dans les classes ou les auditoires de premières années au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, est due aux barrières financières. Et dans ces barrières financières, ce qui fait que déjà avec les éléments ou les analyses de la Banque mondiale, le ménage contribue à la hauteur de 73% pour financer le secteur de l'éducation. Donc vous voyez tout ce poids-là que le ménage supporte, ce qui fait naturellement qu'au bout d'un certain temps, avec un revenu faible, qui est des perdictions. Mais en ce qui concerne d'autres aspects, il y a aussi les zones en conflit, notamment les cas de l'espace Kassai, Beni, Lubero et consorts. Mmh. Et vous avez aussi des problèmes de maladies avec Ebola et ces derniers temps. Et il y a aussi d'autres raisons évoquées par la stratégie sectorielle. C'est un problème d'emplacement des établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel et les lieux d'habitation qui fait que la distance peut être énorme et surtout à l'intérieur du pays, ce qui provoque aussi souvent les cas de perdition. Les raisons sont multiples, mais ce sont là les principales raisons qui causent le taux de perdition.
Donc vous avez beaucoup plus indexé les barrières financières.
Les barrières financières.
Les parents n'ont pas de moyens.
Les parents qui n'ont pas de moyens, déjà, les gouvernements les reconnaissent. Et puis le problème de violence dans des zones en conflit.
Voilà. Nous allons accueillir Robert Kabouré. Il est consultant en communication pour l'UNICEF. Robert Kabouré, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Tati.
Voilà, c'est plutôt Jody qui est au micro. Alors, dites-nous, quelle est la situation là-bas? Okay. Là-bas, au Kassai, on a appris que les bon nombre d'enfants ne vont plus à l'école. Le taux de désertion scolaire est autour des 92.
Tout à fait. Et il faut dire que pour en prélude à la préparation de cette journée, UNICEF a initié une enquête qui a été organisée et réalisée par les enfants du Kassai oriental ici, plus précisément les enfants de Mbujumai. Et au sortir de cette enquête, des résultats sont sortis et malheureusement, 92% de ces enfants qui ne sont pas à l'école le sont à cause du manque d'argent. c'est-à-dire que les parents n'arrivent pas à pouvoir rendre disponible de l'argent pour leur mettre à l'école. Et ces résultats, il y a des données qui sont en tout cas frappantes, qui sont ressorties. Et 64% de ces enfants trouvent que l'école leur manque beaucoup. Et il y a quand même quelque chose de positif, mais malheureusement, les enfants ne sont pas allés à l'école. Donc 64% de ces enfants estiment que l'école est une bonne chose. Et 16% de ces enfants interviewés et manquent de vêtements. Et c'est vraiment triste qu'un enfant puisse en venir à dire effectivement qu'il manque de vêtements. Et malheureusement encore, hein, 100% de ces enfants interviewés lors de cette enquête et ont de rêves nobles pour lorsqu'ils vont grandir. Donc malheureusement, ils ne pourront réaliser ces rêves parce que ils ne seront pas à l'école et pour pendant leur enfance. Donc c'est vraiment toutes ces questions réunies qui, en tout cas, rendent la situation au Kasaï oriental ici est un peu délicat, et d'où l'organisation et puis l'appui à l'organisation de cette journée par UNICEF ici. Mmh. Et voilà, et nous sommes en train de préparer activement cette activité pour interpeller les acteurs que nous sommes, les autorités, les parents d'élèves, les gardiens d'enfants, à pouvoir revenir un peu et pour étudier la situation de l'enfant pour renverser la tendance.
Oui, Robert Kabouré, nous rappelons qu'aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfance, le 20 novembre.
Tout à fait, tout à fait. Tout
voilà,
à, fait.
Voilà. À cette occasion, on parle de la situation au Kasaï, où bon nombre d'enfants ne vont plus à l'école à cause des barrières financières. Alors, quel est, d'après vous, Robert Kabouré, à un certain moment, on parlait même de la gratuité de l'enseignement, les enfants doivent aller à l'école étudier gratuitement. D'après vous, quelles sont les pistes, des solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce phénomène, la déperdition scolaire?
Ok. Et en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement et les autorités politico-administratives, l'administration a fait un grand pas et a travaillé à pouvoir rendre gratuit l'école du premier et de la première à la cinquième année. Malheureusement, beaucoup d'établissements prennent le pas au niveau de l'application. Donc c'est l'occasion encore pour nous, cette journée, et de pouvoir faire l'état des lieux par rapport au suivi de cette gratuité-là au niveau des établissements, pour dire à l'autorité, et les mesures sont prises, mais les mesures ne sont pas suivies par les acteurs.
Voilà. Serge Bondedi, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre la déperdition scolaire?
Oui, déjà, avant d'arriver dans ce que, comment faire pour lutter contre la déperdition, notre ami a évoqué les statistiques. Je tiens à enrichir davantage les débats en disant, vous savez, l'objectif de l'enseignement dans notre pays, dans le cadre de la stratégie sectorielle, vise notamment la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité. Et cette construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, c'est-à-dire il faut considérer tous les enfants, donc l'accès universel, notamment pour trois besoins ou trois objectifs. L'enseignement doit contribuer au développement national. Deuxièmement, l'enseignement doit contribuer à la promotion de la paix. Et troisièmement, l'enseignement doit contribuer à la promotion d'une citoyenneté démocratique active. Ce sont là les trois objectifs de l'enseignement. Et de ce qui s'est passé principalement dans cet espace du Kasaï, avec ces conflits, nous avons connu...
Avec un taux de déperdition scolaire très élevé.
Très élevé. Nous avons connu un cas de plus de 400 écoles qui ont été attaquées ou utilisées à des fins de ce qui s'est passé avec le conflit Kamouna-Sapou. Et 100 écoles parmi ces 400 ont été totalement détruites. Vous imaginez les conséquences. Mmh. Et pour lutter contre cette déperdition, je crois que les solutions, c'est au niveau de moyens. Avec ce qui s'est passé dans des Kasaï, les familles se sont déplacées de leur milieu de vie naturel, donc en quittant leur foyer. Et en étant dans cette situation, ces familles en zone rurale, donc ne peuvent plus planter ni moins récolter. Donc, ils sont coupés de moyens de survie. Vous imaginez? Et là, nous sommes dans une situation humanitaire. Et il faut des interventions robustes pour aider ces familles, parce qu'ils ne travaillent plus. Ils sont en train de chercher à se remettre à l'état avec les efforts qui ont été consentis, mais beaucoup reste à faire. Mmh. Et là, le gouvernement doit vraiment mettre en place des moyens conséquents. D'abord, commençons par la relance du programme PIRIS, qui est le programme de la construction et de réhabilitation des écoles.
Des écoles. Je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir les auditeurs. Jean-Frédéric nous appelle de Kananga, Pierre Kayembe et Takine, où vous voulez participer, composez le 081-890-63-94.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, art plastique, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Comment lutter contre la déperdition scolaire? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Jean-Frédéric, vous êtes à Kananga, Pierre Kayembe, à Kindu. Jean-Frédéric, bonjour.
Bonjour, je dis c'est plutôt Van Frédéric à Kananga.
C'est plutôt Van Frédéric à Kananga, d'accord. Allez-y, Van.
Oui, je dis que c'est très important le sujet que vous alignez aujourd'hui, et surtout que ça tombe à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfance. Il y a lieu de reconnaître que c'est une situation très réelle ici, au niveau de l'espace Kassai qui a essuyé une crise grave qui est aujourd'hui parlée à travers le monde. Donc il faut reconnaître que les difficultés sont ressenties à chaque jour qui passe, à chaque heure qui passe. Il y a toujours les enfants qui traînent mal dans nos vies d'école parce que tout simplement ils n'ont pas d'argent. C'est le premier paramètre qu'il faut prendre en compte. Le deuxième paramètre, c'est qu'il faut retenir que la plupart des enfants dont les parents ont été tués à l'occasion des violences qui ont sévi au niveau de l'espace Kassai, n'ont pas suffisamment de moyens, ils n'ont pas presque de moyens pour aller à l'école. Donc c'est une difficulté réelle, parce que là, il y a nécessité de revenir sur le fossé qu'il y a entre la promesse du gouvernement de rendre l'école gratuite. Alors on se rend compte que les écoles congolaises, en particulier les écoles du Kassai, les écoles des Kananga à partir de la province à partir de laquelle j'interviens, sont marchandes. Donc ce sont les écoles qui sont très marchandes, et donc les parents qui sont paupérisés et qui n'ont pas suffisamment de moyens ne savent pas vraiment envoyer les enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a un fossé grandissant entre la promesse qui a été faite de rendre une bonne partie des classes gratuites et ce qui se vit sur terrain. Donc il y a nécessité de revenir sur les actions concrètes, comme ont souligné les experts qui sont avec vous, qui sont invités pour participer à cette émission, pour qu'effectivement ce soit ressenti.
Oui, donc, oui, Van, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour permettre à un bon nombre d'enfants du Kassai d'aller à l'école?
La première des choses, il faudrait obtenir un plan maréchal du gouvernement central. Après, il fallait un plan spécifique pour sauver l'école. Ça, c'est une vérité. Mais lorsqu'on se rend compte que c'est vrai, le gouvernement qui a donné une très bonne intention de rendre gratuit l'enseignement, mais il n'y a pas d'action concrète. Mais il fallait bien sûr obtenir un programme spécifique par rapport à la crise que l'espace a connue. Donc il fallait bien entendu, à un moment donné, au-delà du fait que le gouvernement devait construire certaines écoles, mais le gouvernement devait aussi stabiliser la vie des citoyens. Parce qu'au moins ici, la paupérisation du peuple est accrue et l'indigence s'est accentuée à un moment que les parents ne peuvent pas aujourd'hui envoyer leurs enfants à l'école. Mais je voudrais, si vous permettez, que je revienne sur un témoignage. Il y a même des enfants qui ont été récupérés, qui sont sortis des milices, qui ont été encadrés par le bureau catholique de l'enfant, je crois, même c'est... Mais ces enfants-là, ils trouvent des difficultés. Il y a, à l'époque, la ministre un cercle de l'affaire humanitaire, je crois, était de passage ici, avait fait des assurances. Et cette institution avait montré au gouvernement l'urgence qu'il y avait d'apporter un appui financier pour que ces enfants ne puissent pas se voir aujourd'hui obligés de rentrer dans les rangs des milices. Mais les enfants sont maintenant allés à plus que ça, cher ami. Donc ça, c'est difficile. Donc à un moment donné, il faudrait, comme je l'ai dit, que le gouvernement adopte un programme spécifique. Faire le suivi pour qu'effectivement la gratuité promue par la loi cadre
que cette gratuité soit effective. Merci Van Frédéric Dekalanga. Pierre Kayembe, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question Pierre?
Okay, merci beaucoup, je voulais intervenir par rapport au sujet d'aujourd'hui. Vraiment c'est très important tel que mon prédécesseur l'a dit. Et ça coïncide avec la célébration de la journée de l'enfant. Mais il se fait malheureusement en RDC. Tel que vous aviez énuméré bien les taux de la disparition. On comprend que ce sont d'ailleurs les enfants de moins de 12 ans qui sont aussi inclus dans cette disparition. Et si vous regardez très 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 bien, ce sont les enfants qui pouvaient être soit de première année ou soit en sixième année primaire. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas à l'école. Pourquoi? C'est pourquoi moi je voulais toujours revenir par rapport au texte. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui a de très bons textes, mais le problème c'est quoi? C'est l'applicabilité. Les personnes censées appliquer les textes
oui.
N'appliquent pas. C'est ce qui nous fait défaut.
D'accord.
Alors, même pour cette année, bien entendu, vous allez remarquer dans des écoles, quand on commençait le début de la rentrée scolaire, si vous demandez à un chef d'établissement, il va vous donner des statistiques, mais aujourd'hui, si vous le demandez, vous comprendrez qu'il y a déjà diminution. Pourquoi? C'est parce qu'on a commencé à demander des frais. Et à cause de ce fait-là, l'enfant est obligé de rentrer, renvoyer chaque fois. Et ce qui fait de quoi à un parent, le paisible citoyen, dépourvu de tous les moyens nécessaires pour sa survie. Mais il est compté, parce
d'accord.
Que bientôt là, on va commencer, permettez moi bientôt, on va commencer à demander 2 mois. Ce qui se fait d'ailleurs ici à travers la ville de Kindu. On
d'accord.
Va commencer à demander le mois de novembre et le mois de décembre. Mais comprenez, un parent qui n'a pas même mangé dans son foyer, mais vous lui demandez de payer 2 mois à la fois. Alors que c'est prévu la gratuité à l'enseignement primaire. Mais, monsieur l'invité, il est question que le gouvernement soit interpellé par rapport à ça. Il faut voir qui est tenté de tirer toutes les conséquences aujourd'hui, la déperdition scolaire des enfants.
D'accord, merci. Oui, d'accord, merci à Pierre Kayembe. Olga Bumba, voilà, elle nous appelle, c'est une élève du Kassai, elle est en Bujimaï. Olga, bonjour.
Bonjour, c'est Olga Ngomba, à partir du Kassai.
Olga Ngomba, d'accord. Vous êtes élève où ça?
Je suis élève à l'Institut Mwanjadi.
Mwanjadi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Olga?
Moi, j'aimerais parler, j'ai été parmi les enquêteurs au Kassai oriental. Nous avons enquêté les enfants qui sont en dehors du système scolaire. Non seulement pour cette année, mais ceux qui ont abandonné, il y a de 3 ans, 2 ans. Et 92% d'enfants nous assurent que c'est le manque des frais scolaires qui les empêche d'être à l'école. Et aussi 64% d'enfants ici chez nous en Bujimaï ont prouvé que l'école est quelque chose de très capital pour leur vie. Or, nous les trouvons à la maison en train de faire des travaux ménagers, des travaux champêtres. Parfois, les autres passent toute leur journée en jouant. Les autres vendent sous soleil aussi longtemps que leurs pères sont dans des écoles. Il y en a ceux qui sont en train de diriger les aveugles, surtout ça sur des boulevards et des grandes rues. Et aussi des filles mères qui sont sur la ville. En dehors de cela, il y a des handicapés, il y a des enfants qui travaillent dans des mines de diamants. Aussi longtemps que le père sont à l'école en train d'assurer leur avenir dans les jours à venir. Nous avons trouvé que trop d'enfants ont de bons rêves. Il y en a ceux qui veulent devenir des pilotes, il y en a ceux qui veulent devenir des journalistes professionnels, le nutritionniste, le président, ainsi de suite. Alors, avec ce regard-là, nous avons vu que c'est quelque chose de trop regrettable parce que d'ici horizon 2030, quelle génération aurons-nous de personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni s'exprimer en français, parce qu'ils s'expriment ici chez nous en Bujimaï, dans la langue maternelle qui est le Tchouluba, Or, la Convention relative aux droits de l'enfant, à son article 23, nous a stipulé que l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire, donc c'est obligatoire pour tout enfant d'être à l'école, et aussi accessible et gratuit. Donc, si on ne demande pas dans des écoles de frais scolaires, les enfants devaient être tous à l'école parce que c'est leur souci d'être à l'école. Même moins que cela n'est pas appliqué ici chez nous. En bas, il y en a des écoles qui sont de l'État, mais auxquelles on oblige l'argent.
D'accord. D'accord. Merci Olga Ngomba. Depuis, c'est une élève de Mbujimayi qui nous raconte un peu la situation. Elle a eu à mener des enquêtes là-bas. Merci d'avoir appelé Olga. Robert Kabouré, vous êtes toujours en ligne depuis Mbujimayi.
Oui, je suis en ligne, tout à fait. Je suis l'enfant qui parle.
Voilà, vous avez suivi les trois intervenants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Bon, et tout à fait, et tout ce que je pourrais dire ne fera que corroborer ce que les inquiétudes formulées par mes prédécesseurs. J'allais dire ici que il faut remarquer, et au Kassai ici, il y a au moins une CEP appuie à hauteur de 24 960 enfants en termes de fournitures scolaires, les frais de scolarité, hein, en Lomami et en Osankoro. Donc c'est pour dire que et tout ce que je peux dire ici ne fera que corroborer. Les enfants qui ont fait mener cette enquête et qui ont pu toucher toutes les couches d'enfants, des enfants malvoyants, des enfants handicapés, des enfants en tout cas normaux, mais tous n'étant pas dans le système scolaire. Donc ce que je peux dire, c'est vraiment une invite à l'autorité, c'est une invite aux parents d'enfants, c'est une invite à tous les partenaires qui interviennent dans la promotion des droits de l'enfant, et à pouvoir redresser les manches pour pouvoir relever la danse.
Voilà, Serge Bondé dit, vous avez suivi même ces phénomènes des enfants qui accompagnent les aveugles, même à Kinshasa, nous les vivons ici au quotidien.
Oui, d'abord je dirais félicitations à Olga, ça me rappelle les beaux vieux temps en blé blanc. Voilà l'exemple d'une jeunesse responsable. Félicitations à la fille. Oui, c'est inquiétant. On parle d'un Congo émergent à 2030. Je crois que les décideurs doivent être interpellés. Avec cette allure, parler du Congo émergent à 2030, c'est vraiment rêver. Déjà, lors de l'année scolaire 2016-2017, nous avons eu plus de 440 000 enfants qui ont été incapables de terminer les cursus scolaires dans cet espace de Kassai. Nous avons déjà connu ces problèmes de milliers d'enfants qui ont été recrutés dans des groupes armée et dans ces conflits. Et parmi ces enfants, 60% étaient dans ces groupes de Kamuinan Sapo. Aujourd'hui, le problème est réel. Un enfant qu'on a manipulé, à qui on a manipulé, on a formé à manipuler l'arme, il faut le réinsérer dans le cursus scolaire. Sinon, c'est un véritable danger. Et là, le gouvernement ne saura pas atteindre d'ici 2025 la promotion de la paix, parce que ces enfants ont appris à manipuler l'arme, ont appris à tuer, ont appris à poser des actes de violence. Ce n'est que l'école qui peut leur présenter des solutions palliatives, c'est-à-dire contribuer exactement au développement. Mais si rien n'est fait, tel que Olga vient de dire, quel avenir préparons-nous pour demain? Déjà, le pays souffre énormément à cause de faiblesse du système éducatif. Et le gouvernement doit tout mettre en œuvre. Il est temps d'agir.
Et si on doit décider de la gratuité de l'enseignement, que tous ces enfants aillent à l'école, il y a des enseignants qu'il faut payer, il y a les écoles qu'il faut faire fonctionner, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, Serge?
Parlons de la gratuité. Il faut reconnaître ici que la balle est vraiment mal jouée, ou bien le jeu est très mal joué au niveau des gouvernements provinciaux. En se référant aux recommandations des assises de la table ronde de Lubumbashi sur la gratuité, il y a de fortes recommandations qui ont été faites au niveau des gouvernements provinciaux. C'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
Qu'est-ce qui doit être fait au niveau des
Parlant par exemple de la ville-province de Kinshasa. Il y a un projet que les gens peut-être ne savent pas beaucoup, je crois, Paris, quelque chose comme ça, projet d'appui à la gratuité des projet PEDGE, projet d'appui à la gratuité de l'enseignement, où il fallait directement travailler avec les entreprises brassicoles. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on parle de la gratuité? Si nous disons que la gratuité que le gouvernement dit que c'est effectif dans toutes les provinces, sauf dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi, c'est rien. La gratuité que le gouvernement fait allusion, c'est la couverture de frais de Minerval qui ne coûte que 1000 francs congolais. C'est ce que le gouvernement prend en charge dans toutes ces provinces-là. Or, c'est rien.
Il y a une multiplicité des frais.
Au niveau national, il y a 4 frais. Donc, si on enlève le 1000 francs de frais de Minerval, il nous reste 3. Au niveau des provinces, nous sommes entre 16 et 19 frais reconnus que le gouverneur fixe. Vous voyez, si on enlève que le 1000 francs, il reste dans les dizaines de frais qu'il faut payer. Et il faut encore ajouter des frais supplémentaires qui posent le sérieux problème des mumbongo que nous dénonçons. Déjà.
Quelqu'un parlait des écoles marchandes. Donc les écoles,
oui,
c'est du business aujourd'hui.
C'est devenu du business. C'est devenu un service marchand. Et là.
Quand il n'y a pas d'argent, donc.
Pas question.
Pas question.
Pas question. Il n'y a même pas moyen de négocier. L'argent ou rien. Vous voyez, et là, c'est le développement qui est menacé, c'est l'avenir de l'enfant, comme Olga a dit. Il faut vraiment agir. Le gouvernement doit, au-delà de rechercher les moyens, mais il y a des solutions qui peuvent être trouvées dans la gouvernance efficace et démocratique telle que la stratégie sectorielle l'indique.
Richard nous appelle des Colloisies. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre le phénomène, contre la déperdition scolaire. Richard, bonjour.
Bonjour, monsieur Zébi, Daniel Kachama.
Quelle est votre préoccupation, Richard?
Merci beaucoup. D'abord, mes vœux, mes meilleurs à la radio Capi, mes vœux, mes meilleurs invités, mes vœux, mes meilleurs.
Ah bon, déjà, les meilleurs commencent déjà. D'accord, merci. Alors, quelle est votre préoccupation, Richard?
Ah oui, merci beaucoup. Moi, je trouve que la meilleure des choses, d'abord, je suis à Colégie ici. Nous sommes environ 4 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Si je vous cite les écoles publiques de l'État, ça ne va pas arriver à 10, mais on est à 4 millions d'habitants. Maintenant, on n'arrive même pas à compter 10 écoles, vous voyez. Et...
Richard, désolé, il est parti, il n'est plus en ligne. Robert Kabouré, je reviens à vous, vous êtes consultant en communication pour le développement à l'UNICEF. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont en dehors du circuit scolaire. On a suivi tout à l'heure. Quelles sont les solutions que vous préconisez? Donc, s'il faut rendre gratuit l'enseignement sur toute l'étendue de l'espace à Kassai?
Oui, tout à fait. Et donc, ce qui a été vraiment notre base d'analyse, c'est justement cette enquête menée par les enfants en août passé. Donc, c'est de corroborer ce que Olga venait de dire tout simplement. Et l'autorité doit pouvoir se ressaisir et mettre en application les décrets de gratuité au niveau des établissements pour favoriser, en tout cas, la rétention des enfants dans le système scolaire. Et parce que il faut dire que c'est parce que il y a des soucis financiers que l'autorité a pensé à la gratuité. Et si cette gratuité a été pensée, il faut faire le suivi, il faut avoir des mécanismes de suivi pour pouvoir permettre la rétention de ces enfants dans le système scolaire. Il faut dire que dernièrement, quand on parlait de cette enquête a juste été menée dans la ville de Mbujimayi, où il n'y a pas de soucis sécuritaires. J'imagine à l'intérieur de la province maintenant où des enfants ont été touchés par des questions de sécurité. Des questions de sécurité, la situation devrait être encore pire. Donc, c'est d'interpeller une fois de plus l'autorité à pouvoir prendre le lead de cette promotion des droits de l'enfant et que tout le monde pourra maintenant suivre en tant que parent, en tant que partenaire. Ça pourra venir désormais comme étant un plus.
D'accord, on va accueillir Augustin Ilunga de Mbujimayi. Augustin, bonjour.
Bonjour, moi c'est Augustin Ilunga, je suis encore réporteur de la ville de Mbujimayi, j'étudie à l'Institut Moulema, je suis assiseur.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Augustin?
Oui, je suis aussi parmi les enfants qui étaient descendus sur le terrain pour l'enquête. Moi, j'ai été d'abord touché, premièrement, en particulier, j'ai rencontré le cas d'une fille albinos qui répondait à l'aide de Kapinga, âgée de 16 ans. Bon, cette fille-là, c'était sur le terrain, je l'ai rencontrée en train de vendre, l'eau. Elle m'a relaté sa vie en me montrant qu'elle arrêtait des études puisqu'elle était discriminée, de deux, puisque ses parents manquaient de fonds. Elle arrivait en retard, elle détectait les punitions corporelles. Cette fille-là me relate comment elle vend de l'eau sous une forte chaleur, sous une forte pluie, parfois elle est exposée aux actes de banditisme. Et alors, la RDC, notre pays, a déclaré une politique de la non, de la gratuité de l'enseignement primaire à la loi portant protection à son article 38. Et aussi, je vois, on a violé aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 26, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour lire ça, et aussi la Convention relative aux droits de l'enfant, à son article 28. Et c'est pour cela, en ce moment, j'aimerais faire appel aux autorités, tant nationales ou provinciales, de prendre des mesures pour aider ces enfants-là. Mademoiselle Kapinga n'est pas la seule fille où c'est l'enfant être discriminé ou exposé aux actes de banditisme. J'aimerais qu'on puisse premièrement les amener en mode de lunettes, puisque les relates qu'elle a un problème de vision, de deux, son corps est tenu à des prix. C'est pour cela que je demande encore qu'il y ait une baisse de taxes concernant leur notion. Et de trois, j'aimerais qu'on puisse mettre en œuvre la politique déclarée de la norme de la gratuité, de la non-discrimination et de la gratuité de l'enseignement primaire.
Bien, merci. Merci à Augustin Ilunga, élève, c'est un enfant reporter. Robert nous appelle des Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julière.
C'est jeudi, Robert. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la déperdition scolaire?
Oui, justement, c'est à base des réalités que nous sommes en train de vivre sur le lieu ici. D'ailleurs, félicitations d'abord au gouvernement qui est en train de faire un effort parce que jadis nous avons observé des histoires que nous n'observons plus cette fois, mais plutôt il y a encore beaucoup à faire. Moi qui vous parle, je suis victime de très mauvaises qualifications parce que ma fille n'a pas pu terminer l'école, l'enseignement l'année passée. Donc là où il y a une dame enseignante qui va la qualifier d'une fille d'un pauvre pour la dire que non, si vous venez d'une famille pauvre, dites à vos parents d'aller vous chercher des écoles de pauvres. Mais ici chez nous, donc le Minerval, c'est comme nous avons édicté. Donc je vous dis, toutes les écoles de la place ici, donc au premier trimestre, nous apprenons qu'il y a le frais de 40 000, mais à cette école-là, c'est 75 000. Donc vous voyez, pour elle, donc je ne sais pas s'il y a des enseignements qui sont plus spéciaux que d'autres écoles et tout ça. Alors c'est ce que nous déplorons. Et c'est là ce que d'autres parents n'arrivent pas à terminer les études de leurs enfants durant toute l'année.
Vous D'accord.
Pouvez bien commencer. Oui, voilà. Donc c'est pourquoi je voudrais un peu, vraiment je salue votre thématique, en saluant, en profitant aussi l'occasion à tous les auditeurs, à saluer tous les auditeurs.
D'accord, merci Robert. Merci Robert de Bandundouville. Serge Bondedi, vous avez suivi toutes ces préoccupations.
Oui, les amis ont évoqué des aspects très importants, parlant de discrimination et consorts. Je voulais enrichir en abordant l'article 33 de la loi cadre portant organisation de l'enseignement, qui, de manière, dans l'esprit de cet article, oblige le gouvernement à faire face dans la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'enseignement à l'égard de personnes ou de groupes vulnérables parmi lesquels il y a la femme et la jeune fille, les enfants ou les personnes handicapées, les albinos et consorts. Donc c'est inadmissible en 2018 de voir dans notre pays, en République démocratique du Congo, que des enfants subissent des stigmatisations ou des discriminations à cause de leur état physique. Et là, au niveau de nos communautés de base, le chef de la chefferie, tout ça doivent être agir de manière à éviter ce genre de bavures, parce que ça ne fait pas la beauté d'une société, ça ne fait pas le mieux vivre ensemble. Nous sommes une communauté, nous sommes une nation, nous devons dire non à ce genre de comportement. Et ce qui se passe actuellement avec ces taux élevés de
déperdition scolaire
au Kasaï doit nous interpeller au plus haut point. Parce que les enfants qui...
Quelles seront les conséquences avec un si grand nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école?
Déjà, ces enfants sont à la merci de la manipulation sur tous les plans. Parce que c'est l'école qui forme, c'est l'école qui prépare à l'avenir, c'est l'école qui instruit, c'est l'école qui dessine l'avenir d'un enfant. Et quand ces enfants ne fréquentent pas l'école, déjà, ils seront à la merci de la manipulation politicienne.
Surtout à l'approche de la campagne électorale.
De la campagne électorale. Vous voyez des gens qui courent derrière de 2000 francs, des gens dépourvus de tout sens d'éthique, de responsabilité, parce qu'à un certain moment, il y a un problème, un déficit du point de vue éducatif.
On risque d'avoir des mauvais citoyens.
Des mauvais citoyens. Et ces enfants seront aussi à la merci de groupes armés, vous voyez, parce qu'ils ne sauront pas c'est quoi la vie humaine. Alors que la vie humaine est sacrée et on l'apprend à l'école. Le respect de ses pères. Quand ces enfants-là ne vont pas à l'école, donc ils peuvent être manipulés facilement et le pays connaîtra toujours de sérieux problèmes du développement parce que les citoyens ne sont pas préparés pour atteindre les trois objectifs de l'enseignement dans notre pays, contribuer efficacement au développement, parce qu'ils ne seront pas producteurs. Ils n'auront pas une MEDEF.
Oui.
Voilà un peu tout... tout ce qu'on peut dire en termes de connaissances, de conséquences jusque-là.
Félicien nous appelle de Kinshasa. Nous parlons de la déperdition scolaire. Félicien, bonjour. Voilà, Félicien n'est pas encore en ligne. Robert Kabouré, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour aider ces enfants à reprendre les chemins de l'école? Parce que le taux de déperdition au Kasaï, dans l'espace kasaïen, est très très élevé.
Ok, je remercie même déjà la fertilité des analyses de mon prédécesseur. J'ai dit ici, bon, nous voulons bâtir un monde dans lequel chaque enfant a accès à une éducation de qualité, dans un environnement sûr. Donc, il est important que, comme je l'ai dit tantôt, les acteurs que nous sommes, et avec un petit E, hein, les acteurs que nous sommes doivent avoir et l'appui de l'autorité administrative pour pouvoir accompagner ces enfants afin qu'ils puissent rester dans le système scolaire. Donc, c'est une invite encore à l'autorité politique administrative à pouvoir se ressaisir pour prendre ses vraies responsabilités d'attendre pour que l'enfant puisse rester dans le système scolaire.
Bien, merci Robert Kabouré. Je rappelle que vous êtes consultant en communication pour le développement à l'UNICEF dans l'espace du Kasaï. Merci et bonne journée. Nous allons poursuivre et conclure tout à l'heure aussi avec Serge Bondedi. Avant cela, on va accueillir Félicien qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les autres de Radio Kasaï.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la déperdition scolaire et surtout dans l'espace du Kasaï où autour de 92% des enfants ne vont pas à l'école?
Oui, il n'y a pas seulement l'espace Kasaï, il y a la République démocratique du Congo tout entier. Parce que quand vous parlez du Kasaï aujourd'hui, vous avez oublié ceux qui sont à l'Est, vous avez oublié ceux qui sont à Kinshasa où il n'y a même pas de guerre ou des problèmes de sécurité. Moi, au contraire, je me pose la question, quelles sont les difficultés que les dirigeants éprouvent pour scolariser tous les enfants quand ils connaissent l'importance de l'instruction et de l'éducation. Et on n'invente pas la roue tous les jours. Nous avons été avec la colonisation belge ici. On allait attraper nos parents dans la maison pour les amener à l'école et même les parents pour étaient sanctionnés, c'est quand ils n'envoyaient pas les enfants à l'école. Et l'école était supportée par le gouvernement. Mais quelles sont les difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour que nous puissions voir ce que nous voyons comme ça, des enfants dans la rue, et quand ils n'ont pas, les parents n'ont pas les moyens pour payer l'école, les enfants ne peuvent pas étudier, alors qu'ailleurs, ça continue, le système, on continue à prendre les études des enfants, surtout les premiers degrés, les primaires, les premiers secondaires en charge. Chez nous, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que nous n'avons plus assez de moyens, nous n'avons plus assez de ressources? Et nous produisons moins qu'à l'époque de la colonisation ou quoi? C'est ça des questions qu'on doit se poser. Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de patriotisme, il y a un problème de ceux qui nous dirigent, qui ne comprennent pas si réellement ils sont en train de bâtir une nation ou bien ils sont en train seulement de se servir.
Et quelle est la solution, Félicien? Certains disent que la solution, c'est de rendre gratuite l'enseignement sur toute l'étendue du pays.
Pas seulement rendre l'enseignement gratuit sur toute l'étendue du pays, ça c'est déjà dans la constitution, mais il faut que nous puissions voir à l'époque comment est-ce qu'a été organisé l'enseignement. Moi j'ai commencé l'école primaire en 63, et chez mon enseignant, et c'était un modèle, les gens voulaient devenir des enseignants à cette époque-là. Et mes parents n'avaient rien à débourser et ils n'avaient même pas les moyens pour m'envoyer à l'école, mais je devais aller à l'école et j'ai étudié sans trop de problèmes. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui nous soyons plus à mesure de faire ça? Toutes les conditions que l'enseignant avait, toutes les conditions que les écoles avaient, on n'en a plus aujourd'hui. Nous sommes en régression. Pourquoi on doit se poser cette question-là?
D'accord.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de moyens aujourd'hui quand vous voyez les ministres, quand vous voyez tous ceux qui dirigent. Ils sont plus riches que ceux qui nous dirigent à ce moment-là.
D'accord. Merci, Félicien. Serge Bondelier.
Oui, un problème dramatique qui menace la survie de la nation. Et déjà, nous avons des effets patents parce que quand vous circulez rien que dans nos agglomérations, vous avez des chauffeurs qui s'insultent devant les gens. Comme si on était dans une jungle. Vous avez des comportements des gens qui sont de plus en plus, qui ressemblent de plus en plus aux animaux, surtout à Kinshasa. Mmh.
Parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école.
On n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école. Ou oui. Si on a eu l'occasion d'être à l'école, mais on a réussi. Quel enseignement? Et là, il faut aller même dans tous les acteurs éducatifs, les églises et consorts qui contribuent aussi à la détérioration de l'instruction dans notre pays, certaines églises. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps, comme le monsieur venait de dire, que la gouvernance doit prendre au sérieux le défi de l'enseignement en République démocratique du Congo. Chaque fois, les politiques parlent, ils disent que le pays est menacé par des puissances extérieures et consorts. Ce qui peut fonder les socles d'un pays, c'est l'éducation. L'éducation fait partie de quatre piliers d'un État ou d'une nation. Donc, il est temps aujourd'hui que le gouvernant prenne au sérieux cette question. Un taux élevé comme celui dans l'espace Kasaï des déperdictions est plus qu'interpellateur, parce que ces enfants risquent de devenir des bombes contre notre pays. Ceux qui tuent à Beni sont des Congolais, qui tuent leurs confrères, qui tuent leurs compatriotes. C'est parce qu'ils ne savent pas c'est quoi une vie humaine, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi vivre en communauté. Et l'école qui doit promouvoir la vie citoyennement active, la promotion de la paix, se comporte à un service marchand. Ce qui fait qu'il n'y a pas moyen d'accéder et quand on n'accède pas, on est à la merci de la méchanceté du monde. Et ça, c'est grave. Nous devons agir pour garantir un meilleur avenir à nos enfants.
À nos enfants. Merci, Serge Bondedi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des Young Men Association for Education. Imaïe est coordonnateur de la campagne École Ezamon Bongoté. Merci et bonne journée.
Merci.